Merci d'être là pour cette table ronde dont le thème est la science et le futur de l'homme, un sujet relativement vaste, qu'on pourrait essayer de comprendre en se posant la question de la raison de ce débat ce soir. Est-ce qu'on aurait eu le même débat il y a 30 ans ou 40 ans, une époque où l'idée de science et de futur était très intimement liée, un petit peu par un ciment commun qui était le progrès. La question ne se posait pas vraiment de savoir si la science préparait le futur, c'était sa fonction naturelle dans la société, et la question ne se posait pas non plus de savoir quel serait le résultat de cette science. Le résultat était le progrès qui avançait de façon permanente et pour le meilleur, pour améliorer le sort de l'homme sur Terre. Alors, si on se la pose aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, les choses ont évolué au cours des dernières décennies, et en particulier, ça s'est sans doute accéléré depuis le début du XXIe siècle, donc depuis l'an 2000, où on voit que des problèmes totalement inimaginables auparavant apparaissent. Que ce soit le réchauffement climatique, qui est un des pires sans doute, mais aussi la fin du pétrole, la crise énergétique qui nous menace, et sans parler depuis quelques semaines de la crise financière qui vient rajouter une incertitude à l'horizon. Alors, c'est un petit peu comme un réveil après des décennies d'orgies progressistes, un réveil avec une sorte de gueule de bois, et on se pose ce genre de questions, et les questions autour de la science deviennent de plus en plus cruciales et parfois même inquiétantes, puisque la science n'étant plus capable d'assurer de façon évidente notre futur, eh bien parfois on peut se retourner contre les scientifiques, leur faire reproche de ne pas avoir tenu leurs promesses, les promesses qui effectivement, du temps du scientisme d'il n'y a pas si longtemps, et qui peut-être existe encore chez certains, eh bien promettait de résoudre tous les problèmes. Que s'est-il passé? Il y a plutôt eu des problèmes de créer, même si cela occulte tous les problèmes qui ont été résolus, toutes les avancées absolument indéniables de la science aujourd'hui. Il y a une espèce de nuage qui s'est abattu sur ces avancées et qui fait que l'on voit plus clairement les problèmes posés que les améliorations apportées. Alors, c'est autour de tout cela, sans doute, que nous allons parler ce soir avec nos trois intervenants, qui sont Pascal Pic, Étienne Klein et Gilbert Autois. Alors, chacun d'eux, j'aurais demandé de s'exprimer une dizaine de minutes chacun. Je sais que c'est pas facile pour certains, particulièrement mon voisin, qui semble-t-il besoin de quelques minutes supplémentaires. On essaiera de ne pas trop dépasser pour tenir dans une trentaine de minutes ces trois interventions et ensuite donc pouvoir laisser chacun des trois intervenants réagir aux propos des deux autres et débattre un peu entre eux avant de vous céder la parole pendant la dernière partie de cette table ronde. Donc je vais céder tout de suite la parole à Pascal Pic. Pascal Pic qui est paléo-anthropologue et qui, lui, va donc nous parler un petit peu, sans doute, de la filiation de cette science qui découle peut-être de nos origines du côté des grands singes, puisque c'est une de ses spécialités, il est spécialisé en particulier dans l'évolution du crâne des hominidés, et il a écrit énormément d'ouvrages, dont le dernier, qui est paru en 2007 chez Odile Jacob, s'intitule « Lucie et l'obscurantisme ». Donc Pascal Pic, qui a peut-être lu d'ailleurs dans Le Monde un article qui aurait pu l'intéresser dans un des derniers numéros, « Homo bionicus descend du singe », et qui fait là un article qui fait finalement un lien assez transcendant entre le passé de l'homme et son avenir. Pascal Pic.
Merci. Non, je n'ai pas lu l'article, mais je vais le lire. Oui, enfin, merci au courageux public qui reste jusqu'au bout pour écouter surtout les scientifiques, d'autant plus que dans les débats qu'il y a eu précédemment, à chaque fois la science est intervenue, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, non pas pour l'accuser. Donc c'était au contraire sur l'intervention d'un collègue économiste, Monsieur de Pertuis, qui racontait qu'en effet, tout de même, depuis 1987, vous avez fait une référence à cela, on pose des problèmes. Alors, c'est quand même étonnant qu'on a tendance, par rapport au progrès, on a tendance encore chez nous à tuer le messager plutôt que de percevoir la nouvelle qu'il apporte. Les scientifiques ont mis en alerte depuis 20 ans maintenant sur les conséquences du réchauffement climatique et nous y sommes aujourd'hui. Alors, je suis quand même un peu surpris, et je repense ce que vous avez dit. D'un seul coup, on nous accuse de ne pas apporter le bonheur partout. Il est vrai qu'il y a 30 ans, dans les Trente Glorieuses, on croyait que la science allait tout résoudre. Alors d'abord, les scientifiques n'ont jamais prétendu cela. Il y a toujours eu des intégristes, hein, même chez nous, bien évidemment. Il y en a encore. Hein. On a les débats sur le réchauffement climatique. D'ailleurs, ces gens-là vendent beaucoup plus de livres que ceux qui défendent qui disent qu'il y a des problèmes avec le réchauffement climatique. Et donc, ça veut dire que, tout simplement, on n'est pas les seuls, nous sommes pas les seuls à la manœuvre. Nous sommes dans des démocraties, en tout cas en Europe occidentale, et que les décisions appartiennent aussi à tous. Et très clairement, on dit que les choses ne vont plus aussi bien qu'elles devraient être, et on nous accuse de ne pas avoir les solutions. Mais je rappelle que quand même, les subprimes à l'heure actuelle, ce n'est pas les scientifiques qui l'ont fait. C'est M. W. Bush, c'est son père, c'est Ronald Reagan et des gens qui croient en Dieu. Hein? Pardon?
Il n'a pas écrit les codes qu'utilisent les financiers pour faire leurs prédictions.
Non, il n'a pas écrit les codes, mais simplement, il a permis cette dérégulation complètement hallucinante. Et ça vient pas donc des scientifiques. Et nous, on sait très bien, mais on va m'accuser le malthusien, parce que je suis un des rares anthropologues qui a lu Darwin et qui essaye d'inscrire l'anthropologie et les sciences humaines dans une perspective scientifique. Ce qui fait que j'ai très peu de relais dans les médias, parce qu'en France, vous savez, à une époque, un bon diplomate était anti-américain. Chez nous, un bon scientifique en sciences humaines est anti-darwinien. Ça suffit pour faire carrière. C'est quand même un petit peu court. Mais simplement, on en est encore là en France. Et quand on voit le paléanthropologue, effectivement, est quand même troublé de voir comment sa discipline, les origines et l'évolution de l'homme, sont complètement accaparées, polluées, phagocytées par des visions progressistes complètement hallucinantes. Et en définitive, on a vu ma discipline comme la recherche d'une tendance inscrite dans la nature vers la libération de l'homme et sa domination sur la nature. Alors ça, c'est pas que dans ma discipline, mais ma discipline a servi de relais, d'icône, ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces, et ce qui va valoir un des plus grands succès de télévision qui a été évoqué tout à l'heure par Bruno Latour, l'Odyssée de l'espèce. Or, l'Odyssée de l'espèce, c'est le ramassis de tous les clichés les plus archaïques qu'on puisse imaginer. Là-dedans, vous avez une vision complètement fascisante de la domination de l'homme sur la nature. Et comme une dame m'a applaudi, écoutez, mesdames, regardez à nouveau l'Odyssée de l'espèce et regardez la place de la femme. Vu? Ah non, mais ça fait la couverture de Télérama. Et les gens qui soutiennent cette thèse complètement hallucinée, et pardon, cher monsieur du Monde, dès qu'il s'agit d'apporter des thèses complètement syncrétiques, dépassées, stupides, sur la quête de sens dans l'histoire de la vie, ben, c'est malheureux. Moi, quand je sors un livre, j'ai un petit encadré dans Le Monde. Monsieur Jean Stone, qui est le gars qui soutient l'Université internationale de Paris, qui n'est pas une université, lui a droit à 3 colonnes dans Le Monde. Donc, les scientifiques ne sont pas le responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on a des relais de cet ordre-là, dans des journaux et autres. Pardon, je suis pas très agréable, mais de toute façon, comme je suis pas cité, je peux y aller, je serai pas plus cité après, donc ça change rien. Donc je me défoule ce soir. C'est que très clairement, quand Monsieur Jean Stone ou Madame Anne d'Ambricourt-Malassé nous sort à la télévision sur Arte, grande culture française, exception française, que tout l'homme c'est dans la flexion de la base du crâne, franchement, il n'y a que pas se bidonner. Seulement, ça passe sur Arte. Nous, on n'a aucun droit de réponse, les scientifiques. Donc, il faut se poser la question, quand même, dans notre pays, du rapport à la science, en dehors des ingénieurs et des mathématiciens. En fait, nous sommes un pays qui préfère l'agrégé et l'ingénieur aux chercheurs. C'est aussi simple que ça. Nous sommes un pays qui est complètement grevé par la quête de sens, et le débat qu'on a sur le développement durable à l'heure actuelle et sur l'évolution de l'homme, eh bien très clairement, c'est aujourd'hui des personnes qui dominent le débat et qui vendent beaucoup plus de livres, qui ont beaucoup plus d'audience, et qui prétendent qu'on peut continuer car l'homme, grâce à la technique, arrivera à sauver l'humanité. Et après ça, on tombera à nouveau sur les scientifiques parce qu'il y a des gens qui ont complètement dévié dans une forme d'intégrisme technologique et on accusera les autres scientifiques qui, ah ben oui, mais ils nous ont dit que la fête était terminée. Donc là, c'est ce qu'on appelle chez les psychologues les dissonances cognitives. Vous voyez ce que je veux dire? Dissonances cognitives, c'est-à-dire que on veut pas voir les choses et puis on a que ceux qui disaient les autres choses. Donc en attendant, ma discipline est assez extraordinairement mobilisé dans toute cette affaire, et toutes les fresques qu'on entend sur l'hominisation, c'est ça. Donc c'est une longue vision héritée du 19e siècle qui laisse entendre que de toute façon, nous sommes inscrits dans une destinée qui nous amène à dominer le monde, et c'est comme ça que ceci est traduit. Alors l'année prochaine, ça sera l'année Darwin, 2009. Je ne me suis pas précipité pour faire un livre. Moi, je vais faire un livre à la fin de l'année Darwin et je vais faire le bilan en France. Et je crois que ça va être catastrophique parce que nous sommes un pays qui refuse de comprendre ce qu'est l'évolution. L'évolution, c'est quoi, mesdames et messieurs? Ça veut dire que nous sommes dans un monde qui change tout le temps. Et deux raisons pour lesquelles le monde change, c'est pas facile, difficile à comprendre tout de même. Les deux raisons pour lesquelles le monde change, c'est qu'il y a des événements sur lesquels nous n'avons aucune incidence, ce qu'on appelle les catastrophes. Donc, météorites, tectonique des plaques, etc. Sauf que l'homme est assez fort pour créer ses propres catastrophes. Ça, c'est pas dans la nature. Et deuxièmement, ben c'est parce que nous sommes en relation avec les autres espèces. Et très clairement, la sélection naturelle, ça n'a jamais été la loi du plus fort. Ça veut dire que nous sommes en relation avec d'autres espèces, et s'il y a des virus, s'il y a des bactéries, s'il y a des tas de choses qui se passent dans la nature, on peut en être plus ou moins victime. Et je vous rappelle que c'est pas Darwin qui a jeté un météorite sur les tyrannosaures, c'est pas Darwin qui a inventé les virus. Une espèce de paranoïa stupide autour de cela. Théorie de Darwin a eu des dérives, mais ça n'a rien à voir avec lui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand on comprend un premier la théorie de l'évolution, même si on lance l'anathème depuis Karl Marx de malthusianisme, les ressources sont limitées. On n'y peut rien. La Terre est limitée. Et donc, au bout d'un moment, il y a des difficultés. Et ces difficultés, aujourd'hui, sont créées par l'homme. Et tant qu'on tiendra des discours complètement irresponsables sur une espèce de finalisme de l'histoire de la vie, avec notre responsabilité, notre domination, c'est-à-dire que dès que c'est bien, c'est nous les hommes, dès que c'est mauvais, c'est la nature, on ne va pas s'en sortir. Et là, on est sur les problèmes de représentation. On est problème sur des représentations, et je vois bien qu'effectivement, nous les scientifiques, on veut bien participer au futur. Mais le futur, c'est pas la science-fiction, et on participe de la construction du futur. Mais tant qu'on a des idéologies dominantes ou des pensées dominantes archaïques qui passent leur temps à détourner ce qu'est un discours scientifique pour l'inscrire dans un discours pseudo-idéologique de notre rapport à la nature et aux autres, on peut accuser les sciences. Mais très clairement, ceux qu'on entend le plus dans les médias n'ont pas vraiment de très grande qualité scientifique. Enfin bref, les frères Bogdanov, ça marche mieux que Pic. Hein. Donc... voilà, on en est. Donc le public et les médias sont aussi responsables de ce regard vers la science. On ne peut pas d'un côté nous accuser de dire il y a de réels enjeux d'un point de vue scientifique, mis en évidence par les scientifiques sur le réchauffement climatique, et ensuite nous accuser de ne pas apporter les solutions. Les solutions sont mises en œuvre au niveau citoyen. On y participe. Mais tant qu'on nourrit l'autre côté des conceptions de notre évolution qui nous donne un rapport complètement erroné à la nature, je crois que nous aurons beaucoup de mal à nous en sortir. Et donc aujourd'hui, ce qui est remis en cause, ce n'est pas le progrès, mais c'est une certaine idée du progrès. Bon, je renvoie à quelques livres, hein, comme celui de Pierre-André Taguieff ou autre, et ma discipline n'y a pas échappé, bien évidemment. Mais très clairement, lorsqu'on essaye de sortir de cette espèce de mise au pas de la science, eh bien, je m'aperçois que nous sommes très très peu relayés, et que voulez-vous ? Dans le monde où nous sommes, on préfère les Golden Boys et les Golden Girls et dormir et pleurer sur leur sort, alors que nous sommes les derniers couillons de nos sociétés, parce qu'on fait des études jusqu'à 35 ans en étant boursier. Faut vraiment être con, hein, pour être scientifique, hein, je vous l'accorde. Tout ça, c'est pas pour dire, mais ça va bien, hein, mais tout ça, c'est pour dire quelle est la place que nous avons dans notre société. La place, elle n'est pas brillante, elle n'est pas brillante du tout. Et ça a été dit tout à l'heure par un économiste et par un scientifique, sans une recherche fondamentale et un développement de la recherche dans tous les domaines, nous aurons des difficultés à affronter le futur. Alors le futur, ça se construit aujourd'hui, tout simplement. On sait que ça ne sera pas ce qu'on pense, mais de toute manière, il faut se poser la question, d'où l'intérêt de ce colloque. Mais se poser la question, c'est être capable de proposer un ensemble de réponses possibles, envisageables. Et dans ce travail, donc, c'est celui des prospectivistes, des économistes et bien sûr des scientifiques. Mais très clairement, ma discipline devrait y participer, sauf que malheureusement, dès qu'on touche à l'homme, nous tous avons affaire à des archaïsmes religieux ou autres. Et je terminerai là. Vous savez, j'aurais jamais cru que j'aurais dû un jour écrire un livre, Lucie, l'obscurantisme, pour montrer combien les fondamentalismes religieux étaient de retour et menaçait notre laïcité, notre modernité. Alors, quand j'écris ce bouquin, il y a 2 ans maintenant, on me dit, t'es un peu paranoïaque. Ben, vous savez, c'est comme les prévisions du réchauffement climatique. On était en deçà du pire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore pire ce qu'on imaginait. Donc, dans l'histoire des civilisations, il est quand même intéressant, lorsqu'on regarde la Chine, mais la Chine il y a longtemps, il y a 15 siècles, lorsqu'on regarde l'islam, l'âge d'or de l'islam, lorsqu'on regarde la Renaissance, la Grèce classique et ce qui a été l'âge d'or de l'Europe qui se termine, à chaque fois, il y a eu une activité scientifique très importante. Et aujourd'hui, nous avons des budgets, nous avons des volontés qui sont très timorées en ce qui concerne la recherche scientifique. Donc ce n'est pas les sciences qui vont sauver le futur, mais sans les sciences, je crois que le futur est très compromis.
Pascal Pic. Merci Pascal Pic. Je ne pense pas que Étienne Klein sera en opposition avec cette dernière phrase. Étienne Klein est physicien au CEA, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière à Saclay. Il est également docteur en philosophie et vulgarisateur des sciences les plus complexes. Étienne Klein a publié de nombreux ouvrages. Je citerai juste parmi les 2 derniers, Le facteur temps sonne, ne sonne jamais 2 fois. Paru en 2007 chez Flammarion, et Galilée et les Indiens, allons-nous liquider la science, qui vient tout juste de sortir, puisqu'il est vendu depuis le 13 octobre, également chez Flammarion. Étienne Klein.
Bonsoir à tous. Non, je ne crois pas que je serais contre Pascal Pic, en tout cas pas contre tout. Moi, j'essaie de tenir une position moyenne, ce qui est toujours difficile en France, puisqu'on parle de la France, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le scientifique que je suis essaie de contester 2 positions extrêmes. La première, qu'on pourrait qualifier de scientiste, qui considère que tous les problèmes que nous avons, in fine, sont des problèmes scientifiques, et que la science, par ses progrès, ses avancées, permettra un jour de les résoudre. Je connais par exemple des gens qui pensent que la famine est un problème scientifique, ce qui est évidemment absurde. Nous avons des tas de problèmes qui ne sont pas des problèmes scientifiques. La famine, on pourrait la faire disparaître si on s'organisait pour cela et si on le souhaitait vraiment. Et puis, l'autre opposé, c'est ceux qui pensent que, sous prétexte que la science a mis parfois cap au pire, il faudrait relativiser ses avancées, voire les laisser de côté, et voire peut-être la freiner. Or, moi, je pense que la connaissance, toutes les connaissances, et je pense que ce sont les connaissances scientifiques qu'il faut essentiellement défendre aujourd'hui, ont de la valeur pour elles-mêmes. Et même si on parle aujourd'hui de décroissance, même si on prend acte du fait que la Terre est limitée, même si on prend acte du réchauffement climatique, de la disparition à grande vitesse de la biodiversité, ça oblige à repenser notre relation à l'environnement. Mais nous ne stabiliserons pas le climat avec la physique d'Aristote, et nous ne stabiliserons pas la biodiversité avec la biologie de Pline l'Ancien. Et donc, je conteste aussi fortement que la première école de pensée, celle qui essaie de relativiser la science au motif que l'universel qu'elle exhibe n'est pas complet. Et effectivement, on a pris acte au XXe siècle, après le délire scientiste que j'ai évoqué, du fait que la science ne répond qu'aux questions scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de questions scientifiques. Et les questions scientifiques n'intéressent pas grand monde. D'où l'amertume de mon ami. Mais le LHC vient de démarrer. Qu'est-ce qu'on va faire avec le LHC? On va comprendre, on espère en tout cas, d'où vient que les particules ont une masse. On va comprendre pourquoi il y a une brisure de symétrie entre la matière et l'antimatière. On va comprendre peut-être de quoi est faite la matière noire. Mais en gros, tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire, nous ne nous intéressons pas aux questions scientifiques, qui sont des questions très spéciales. Les questions qui nous intéressent sont les questions qui sont relatives à nos valeurs. Or, la science n'aide guère à mieux penser la liberté, la justice, la bonne façon de vivre ensemble, etc. Et donc, sous prétexte qu'elle n'aide pas à trancher la question des valeurs, eh bien, nous mettons de côté ces réponses lorsque ces réponses, à elles, sur son terrain, sont incontestables. Et moi, je pense, si vous voulez, que la séparation entre la science et les valeurs qu'on a longtemps invoquée, je crois que ça s'appelle la loi de Hume, elle existe, mais elle n'est pas parfaitement étanche. C'est-à-dire que les résultats de la science éclairent la question des valeurs sans la trancher. Par exemple, lorsque vous savez, grâce à la science, que l'univers a 13,7 milliards d'années et que l'homme n'y est apparu que tardivement, vous ne vous pensez pas tant l'univers et vous n'adoptez pas les mêmes valeurs concernant, par exemple, la vie, la mort, le rapport que vous devez avoir avec les autres, que si vous pensez que l'univers est apparu il y a 6000 ans avec un homme dans l'état qu'il a aujourd'hui et en même temps que les dinosaures. C'est un message pour Sarah Palin. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut considérer que la science, dans son domaine, est maîtresse de son ordre. Que si l'antimatière vous intéresse, il vaut mieux aller discuter avec un physicien. Si l'âge de l'univers vous intéresse, il vaut mieux aller discuter avec un astrophysicien, plutôt qu'avec des gens qui n'ont pas suivi cette démarche. Alors, pour ce qui est de la question, alors, simplement, on a parlé du progrès. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'idée de progrès? C'est une idée moderne, en fait très récente. C'est l'idée que le futur nous réserve de bonnes surprises à condition de travailler à les faire apparaître, alors que les Grecs pensaient que l'âge d'or c'était avant. Moi j'entends de plus en plus de gens dire que l'âge d'or c'était dans le passé. L'idée du progrès, c'est l'idée que le futur nous réserve pas forcément un âge d'or mais une amélioration qui peut se construire à partir d'une association entre rationalité, science et progrès. À cette idée, il faut ajouter l'idée d'universalité. Le progrès, par définition, est universalisable, et à long terme, il viendra profiter à l'ensemble du genre humain. Et on ajoute une troisième notion, qui est la notion d'embrayage automatique. C'est-à-dire un progrès dans le domaine des sciences va ensuite se transformer en un progrès technologique ou technique qui lui-même va engendrer un progrès matériel dans le confort, le bien-être, qui lui-même va engendrer un progrès moral, qui lui-même va engendrer un progrès politique. Or, on a aujourd'hui deux problèmes. Le premier, c'est avec celui d'universel. Ce progrès technique et scientifique dont on a parlé nous a permis d'avoir un mode de vie occidental, le nôtre, qui fait qu'aujourd'hui, chaque Français consomme chaque année 80 milliards de joules pour se chauffer, se déplacer, se nourrir, se vêtir. 80 milliards de joules. Et que cette consommation-là n'est pas universalisable. On ne sait pas donner, fournir 7 milliards de joules à 7 milliards, combien j'ai dit, 80 milliards de joules à 7 milliards d'habitants. D'autre part, il n'est pas durable, puisque vous avez sans doute parlé de la fin du pétrole. Sans pétrole, on ne voit pas bien comment on pourrait trouver une énergie aussi commode, aussi miraculeuse, qui pourrait nous rendre les mêmes services. Donc, problème avec l'universel. Problème avec l'embrayage. Si vous lisez d'Alembert, il vous dit que si on prend une nation tyrannique, n'importe laquelle, et qu'on y forme des géomètres, des scientifiques, quelque temps plus tard, le peuple se libérera de son joug. D'Alembert n'avait pas prévu la Corée du Nord, là où il y a d'excellents géomètres, d'excellents physiciens et une tyrannie de fer. D'accord ? Donc la science et la démocratie qui ont eu une enfance commune et même une adolescence commune au sens où elles se sont mutuellement épaulées. La science a aidé à défaire certains dogmatismes, à défaire l'autorité d'institutions comme l'Église, l'aristocratie, la monarchie. Aujourd'hui, le lien entre science et démocratie n'est plus un lien évident. Il y a même des États parfaitement antidémocratiques qui ont promu la science. Je pense à l'Union soviétique. Bon, alors, pour en revenir à la question du futur, je crois que j'ai pas du tout lu ce que... C'est Pascal Pic qui m'a orienté vers tout ça, mais je voulais parler d'autre chose, notamment de notre rapport à l'avenir. Je crois que dans la conférence précédente, on a parlé du présentisme, c'est-à-dire cette idée que c'est le présent qui nous domine toute la journée, qui est une sorte d'ontologie exclusive de l'actualité, une hégémonie d'instantané, une autorité du temps soi-disant réel qui est en fait un temps complètement déréalisé, et que cet écrasement du présent fait que le présent se déconnecte de l'avenir. Nous sommes orphelins des philosophies de l'histoire, nous sommes submergés par un flux qui nous piège, et nous perdons ainsi les moyens de discerner quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger. Autrement dit, nous ne parvenons plus à penser ce qui va survenir en prolongement de ce qui est. Et pire, nous ne croyons plus en l'idée selon laquelle l'avenir serait systématiquement complice des initiatives humaines. Qu'est-ce qui se construit ? Qu'est-ce qui se détruit ? Nous l'ignorons pour une grande part. Et nous comprenons pourquoi nous l'ignorons. Nous l'ignorons parce que nous avons découvert que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous. On a parlé du changement climatique. Et ça, c'est en rupture complète avec la coupure galiléenne. Galilée dit « la nature est écrite en langage mathématique, elle est régie par des lois physiques qui s'expriment par des équations, et l'homme est un être d'antinature ». L'homme échappe à la nature, c'est un spectateur qui, par son génie propre, est capable de comprendre les lois de la nature, et Descartes vient ajouter que s'il comprend les lois de la nature, il va pouvoir les exploiter pour être maître, comme maître et possesseur de la nature. Une sorte d'indépendance qui aujourd'hui est remise en cause, et ça s'illustre par tous les problèmes que nous avons avec l'environnement. Et du coup, nous devinons que cet avenir même que nous sommes en train de préparer d'une façon apparemment délibérée pourrait se révéler radicalement autre, échapper à nos intentions, nous trahir presque, et au fond de nous-mêmes, nous le craignons. Alors c'est là que je suis vraiment d'accord avec Pascal Pic, quand on voit l'audience de ceux qui nous expliquent qu'il ne faut pas croire à ce que nous savons. Et comme nous avons tous des mécanismes inconscients très actifs qui nous permettent justement de ne pas croire à ce que nous savons, eh bien nous écoutons tous ceux qui nous invitent à ne pas croire ce que nous savons. Par exemple, le réchauffement climatique. Disons le changement climatique, parce que ce réchauffement n'est pas global, il y a des endroits où ça va refroidir. Donc c'est, parlons de changement climatique. Aller nier la réalité, au moins à venir, du changement climatique, c'est admettre qu'un système physique dans lequel on augmente l'énergie qui est piégée va rester identique à lui-même. C'est donc admettre que tout ce qu'on a appris en physique est faux, que les lois les plus élémentaires de la thermodynamique sont des illusions. Autrement dit, c'est tenir des propos quasi délirants. Comment se fait-il que quand quelqu'un, une ou deux personnes, explique ça, à savoir qu'il n'y a pas de part anthropique dans le réchauffement climatique, il est partout présent. Je pense à Allègre, évidemment. Allègre, géologue reconnu, mais non climatologue notoire. D'accord ? Comment se fait-il qu'on l'écoute ? alors qu'il n'y connaît rien. Donc là, je m'interroge et du coup, lorsque, pour le coup, nous avons les moyens de prédire l'avenir, quand nous avons les moyens de prédire l'avenir, nous n'écoutons pas ces prédictions. Qu'on puisse laisser quelqu'un dire, comme je l'ai entendu à la radio, que il est impossible de prédire l'histoire du climat, l'histoire à venir du climat, dès lors qu'il est impossible de prévoir la météo plus de 3 jours à l'avance. Comment on peut laisser quelqu'un dire une bêtise pareille? Évidemment, c'est du bon sens. Finalement, le climat, c'est l'extrapolation de la météo. Donc si on ne peut pas prédire plus de 3 jours, on ne peut pas prédire le climat de la Terre dans 100 ans. Bon, quand on regarde d'un peu près, on voit que c'est évidemment une bêtise, mais ça parle. Et du coup, ça nous permet de nous dédouaner de la responsabilité d'admettre qu'il y a un changement climatique et que nous devons préparer à affronter ses effets. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole, je vais juste vous dire ce que j'aurais dit si j'avais pu parler. Mais il y a une question qui est quand même sous-jacente à toutes celles qu'on discute aujourd'hui, et là je parle de l'ensemble du programme de la journée, qui subsume, si on peut dire, toutes les questions, c'est le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? C'est ça la grande question. D'accord? Mais oui, mais il faut la poser à un moment. C'est-à-dire, quel est le statut du futur? Et là, je parle en physicien. On a tous appris à l'école que l'axe des temps se représente par une ligne droite, en général, sur laquelle on met une petite flèche, et ça représente le temps, et tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça nous paraît être quelque chose d'assez évident, c'est une sorte de sublimation de l'image du fleuve à laquelle on compare souvent le temps, mais il y a une chose qu'on dit jamais, c'est comment l'axe des temps est-il temporellement parcouru? Autrement dit, est-ce que l'instant présent, le T, glisse le long d'un axe qui existe de toute éternité? Autrement dit, est-ce que tous les points de la droite existent en même temps et l'instant présent n'en occupe qu'un seul qui ne cesse pas de changer de place? Ou bien est-ce que n'existe que l'instant présent, qui est en quelque sorte bordé par deux néants qui sont le présent, le futur et le passé? Et évidemment, selon la voie que l'on choisit, la réponse que l'on donne à cette question, on a une conception de l'avenir qui est complètement différente. Alors vous allez penser peut-être que ce sont des élucubrations. En fait, c'est un débat qui a été lancé par Einstein. Einstein a inventé une conception qu'on appelle la conception de l'univers bloc, qu'il a directement tiré des équations de la relativité générale. Et c'est l'idée que finalement, l'espace-temps existe de toute éternité et n'est pas temporel. C'est nous, par notre mouvement d'observateur dans cet espace-temps, qui créons l'impression que nous avons que le temps passe. Un peu comme un voyageur dans un train regarde par la fenêtre, dit le paysage défile, alors que le paysage ne défile pas, c'est son mouvement à lui qui crée l'impression qu'il a de voir un paysage défiler. Et dans cette conception-là, qui est encore aujourd'hui défendue par beaucoup de relativistes, eh bien, le futur et le présent ont exactement le même statut. Le présent se distingue, le futur et le passé, pardon, et le présent le même statut. Le présent est ayant simplement comme propriété supplémentaire que nous y sommes présents. Mais Strasbourg et Brest ont la même réalité que Paris. Il se trouve qu'on est à Paris, mais ça n'empêche pas que Paris, Brest et Strasbourg aient le même degré d'existence que Paris. Et à cette conception-là s'oppose la conception présentiste, défendu par d'autres physiciens qui pensent que la seule chose qui existe, c'est l'ensemble des événements qui actuellement ont lieu. Bon, ça reprend un peu une conception que Wittgenstein, que je voudrais citer, défendait dans le Tractatus. Voilà, je le cite. Le monde est tout ce qui a lieu. Le monde est la totalité des faits, non des choses. Ce qui vient au monde est le monde lui-même en tant que process. Ce qui se renouvelle est la réalité. Et la physique n'est pas capable de trancher entre la conception univers bloc ou bien présentisme. Et donc, il faut répondre à cette question sans la physique. Donc, j'aurais pu ne pas en parler. Mais il me semble que nous avons le devoir de considérer que le futur n'existe pas déjà pour donner un sens à nos actions Et c'est ce qu'on appelle la politique.
Merci Étienne Klein. Donc je donne tout de suite la parole à Gilbert Autois pour essayer de regagner quelques minutes, mais je crois que ça va être difficile puisqu'il lui-même avait besoin d'un peu plus de temps. Donc Gilbert Autois est philosophe spécialiste des questions d'éthique de la technoscience. J'espère qu'il est d'accord avec cette définition, moyennement, c'est déjà quelque chose. Professeur à l'Université libre de Bruxelles. Donc il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Alors j'avais prévu de citer La science entre valeurs modernes et postmodernité chez Vrin en 2005, Philosophie des sciences, philosophie des techniques chez Odile Jacob en 2004, et puis bien d'autres, je ne vais pas pouvoir tous les citer, et je lui cède tout de suite la parole, Gilbert Autois.
Merci, bonsoir à tous. Je vais partir aussi de l'idée déjà suffisamment soulignée que le concept et la valeur du futur ont une histoire, que le futur a donc un passé, et que sa valorisation est étroitement liée à la modernité post-Renaissance, c'est-à-dire que l'accentuation et la valorisation du futur au sens d'une durée réelle, empirique, à parcourir, à produire, à construire par l'homme, sont corrélées au développement des sciences et des techniques modernes. Alors je vais schématiquement, vous avez la projection du plan de mon exposé, je serai évidemment assez bref sur tous ces points. Je vais donc schématiquement évoquer cinq figures ou étapes ou approches, si vous voulez, philosophiques de cette corrélation donc entre temporalité future et progrès et sciences et techniques modernes. Alors tout commence plus ou moins à l'époque du XVIe, XVIIe siècle, notamment dans l'œuvre de Francis Bacon, œuvre qui présente des occurrences systématiques de l'expression « génération future ». Et il dédie d'ailleurs l'un de ses livres pour le profit. Il le dédie aux générations futures et il l'a écrit, dit-il, pour le profit des générations présentes et futures. La science, telle que la projette déjà Bacon, doit se développer donc progressivement grâce à une organisation déjà très collective. Il la voit comme collective et transgénérationnelle. Ce progrès est, dit-il, d'une très porteur d'espérance, et le mot espérance revient très régulièrement à la fois dans la Nouvelle Atlantide et dans le Nouvel Organon, d'une grande espérance parce que c'est ainsi que l'homme pourra devenir une sorte de Dieu. L'homme, dit-il, est un Dieu pour l'homme, c'est-à-dire que, du moins dans cette phrase-là, c'est l'homme lui-même qui a la responsabilité de cette espérance de son accomplissement progressif. Et dans la liste étonnante des merveilles, ce qu'il appelle les merveilles naturelles, surtout celles qui sont destinées à l'usage humain, liste qui est proposée à la fin de la Nouvelle Atlantide, 1627, on trouve des anticipations qui sont tout à fait actuelles. J'en cite quelques-unes parce que la liste est très longue. Il y a prolonger la vie, retarder la vieillesse, transformer le tempérament, la nature, les traits de caractère, fabriquer de nouvelles espèces, produire des aliments nouveaux, etc., etc. Donc on a l'impression que Bacon, dès le début du XVIIe siècle, songe à un progrès illimité qui aboutirait à transformer l'homme en un dieu omniscient et omnipotent. En réalité, sa pensée continue de s'inscrire à l'intérieur du cadre judéo-chrétien. C'est-à-dire que cette nature que l'homme manipule a bien été créée par Dieu, et même si elle offre des possibilités de transformation, elle n'est pas une matière infiniment plastique, elle n'est pas dépourvue de lois de forme essentielle et immuable. Quant à l'avenir, qui est placé sous le signe du progrès, il ne relève pas du tout d'une temporalité cosmique qui serait infiniment ouverte sur des futurs inanticipables. Cet avenir est placé, est inscrit au sein de la mythologie chrétienne. Faire de l'homme un dieu, c'est en fait lui rendre progressivement le statut qui était le sien avant la chute, lorsqu'il régnait sur le jardin d'Éden et disposait du savoir-pouvoir d'Adam, un passé originel qui n'est d'ailleurs pas tellement lointain selon l'époque, quelques milliers d'années tout au plus. Donc il s'agit donc par la science et la technique de racheter progressivement une progression qui est, comme vous le voyez, aussi une régression, de racheter progressivement le péché originel. La finalité ultime du progrès est en somme de rejoindre l'origine perdue, et le temps forme comme un cercle au sein de la création divine sur fond d'éternité. Deuxième étape, deuxième figure, qui nous mènera de Bacon au XXe siècle. Pendant cette période, on assiste à la sécularisation croissante de ce cadre temporel mythico-religieux. Kant en donne la formulation philosophique en présentant, comme il le dit, les idées religieuses dans les limites de la simple raison. Il n'est plus question, dès lors, de revenir à l'origine édénique, mais d'accomplir progressivement, au cours de l'histoire humaine, un idéal qui existe en puissance dans la nature humaine, qui est encore imparfaite. Cet idéal, c'est celui d'une société universelle, juste, pacifique, où la raison et la liberté seront épanouies. Telle serait la finalité de l'histoire faite par les hommes, qui réaliseront ainsi, dit Kant, le plan de la nature. Alors Kant songe essentiellement à un progrès moral, juridique et politique. Le développement des sciences et des techniques et le savoir universel qu'elles dispensent ne sont pas inutiles, certes, sont des auxiliaires, mais on n'en attend rien de révolutionnaire ni de décisif. Avec Marx, on va assister au parachèvement de cette sécularisation en ne considérant plus que la production historique matérielle d'une société idéale sans classe qui permettra l'épanouissement de toute l'humanité dans chaque individu. Cette société constitue la fin de l'histoire. Elle sera réalisée par la révolution politique suivie d'une gestion non aliénante de l'économie qui comprend la technique, bien entendu, les moyens de production. C'est l'endemain qui chante, donc cette fin de l'histoire n'est pas non plus considérée, disons, imaginée comme étant très éloignée dans l'avenir, et l'assurance de cette relative proximité temporelle anime évidemment l'espérance de l'humanité. Alors, durant la seconde moitié du XXe siècle, comme on l'a d'ailleurs pas mal rappelé déjà, la relation entre science, technique et progrès de l'humanité est devenue de plus en plus ambivalente. Un philosophe comme Jonas, Hans Jonas, dans Le Principe Responsabilité, dont le sous-titre est Une éthique pour la civilisation technologique, qui paraît en 1979, constitue une réaction philosophique systématique contre les dangers présumés pour l'avenir de l'humanité et de la nature, dangers véhiculés par la recherche et le développement technoscientifique dans des sociétés démocratiques, multiculturelles et aussi individualistes. Pour répondre à cette menace, il faut, selon Jonas, une éthique attentive au futur, mais une éthique absolument fondée, qui offrirait donc une base à une politique assurée par un gouvernement de sages, dont le souci dominant sera de protéger l'existence de l'homme, l'essence de l'homme et aussi la nature sur le long terme. Donc, suivant Jonas, la pensée du progrès, l'humanisme des Lumières, qui enracine sens et valeurs dans la raison et dans la liberté humaine, et qui poursuit un projet de domination de la nature, ont conduit au nihilisme technoscientifique caractéristique du XXe siècle. Afin d'en combattre les dangers, Jonas s'ouvre quant à lui à la question de l'évolution, mais il refuse deux aspects de l'évolutionnisme. L'un concerne le passé, à savoir qu'il refuse la contingence de l'évolution. Il affirme un finalisme. L'autre concerne le futur, c'est-à-dire qu'il refuse la liberté de l'espèce humaine d'intervenir effectivement dans sa propre évolution, alors même qu'un abîme, temporel de milliers d'années, de millions d'années, est ouvert devant elle. La croyance jonassienne fondamentale est que l'espèce humaine telle qu'elle existe depuis la préhistoire constitue la fin ultime de l'évolution biocosmique, avec pour conséquence qu'il n'y aurait donc plus qu'à la conserver, en espérant et en ne voulant plus rien d'autre que cette conservation. L'homme, dit-il, n'est qu'à l'image du Créateur, il lui est interdit d'intervenir dans le processus de la création que l'évolution naturelle exprime en le prolongeant ou en le modifiant. Notre devoir est de préservation, non de progrès ou de changement. Philosophiquement, la pensée de Jonas indique davantage vers le passé prémoderne traditionnel. Avec des philosophes comme Karl Otto Appel ou Jürgen Habermas, donc deuxième génération de l'école de Francfort, on rencontre une dénonciation de ce raisonnement jonassien. Il refuse le retour jonassien à une pensée qui serait prémoderne, dictée par des périls associés au progrès. Parce que abandonner l'idée et le souci moderne du progrès universel revient, selon eux, à abandonner en même temps les idéaux de justice, d'égalité, d'émancipation, ainsi que la volonté politique de les réaliser progressivement. Bon, je n'entre pas ici dans les détails de la philosophie de l'éthique procédurale de la discussion et de la communication qui offre le cadre de légitimation de la prise de décision collective pour ces philosophes. Ce que je voudrais dire, c'est que la tradition philosophique que prolongent Appel et Habermas remonte à l'idéalisme kantien et hegelien. La notion contemporaine d'évolution en est quasi totalement, évolution de la vie, je dis, évolution biologique, en est quasi totalement absente. Le présupposé fondamental de cette tradition philosophique idéaliste, actualisée, est que le progrès ne peut être opéré que par des moyens symboliques, grâce au langage principalement, grâce au logos, siège de la raison et de la liberté. Or, bien sûr, c'est à des moyens et des modalités technophysiques de progression que pensent aussi certains partisans des sciences et des techniques, manipulation génétique, neurotechnique, prothétique, avec éventuellement une organisation technique, scientifique ou technocratique de la société. La conviction de l'idéalisme traditionnel et contemporain est que de telles entreprises seront nécessairement aliénantes et défigureront l'homme vers l'inhumain, soit animal, soit machinique. L'évolution biophysique n'a donc pas à être ni reprise, ni corrigée, ni prolongée techniquement. Il n'y a pas d'évolution humaine, il n'y a que l'histoire humaine qui est une histoire fondamentalement symbolico-spirituelle, si vous voulez, et seulement accessoirement technomatérielle. Enfin, dernière figure, les conceptions néo-darwiniennes récentes de l'évolution, et je parle évidemment sous le contrôle de mon collègue Pic, n'étant pas du tout un spécialiste de ces questions, les conceptions néo-darwiniennes récentes de l'évolution ne la conçoivent pas comme un procès unifié et finalisé. Elles la décrivent comme buissonnante, contingente et aléatoire, imprévisible. L'espèce humaine ne serait qu'une forme de vie et d'intelligence improbable, spatio-temporellement apparue au hasard des évolutions cosmiques en un endroit tout à fait local de l'univers et du temps, la planète Terre et sa nature. Comme l'espèce humaine a toujours été génétiquement et culturellement polymorphe, on ne voit pas pourquoi, compte tenu de l'immensité de l'avenir, cette espèce n'entreprendrait pas d'intervenir dans sa propre évolution, dès lors qu'elle en développe les capacités technoscientifiques. Ces interventions pourraient être multiples et variées, entraînant l'espèce humaine dans des transformations et dans une diversification biophysique et culturelle que nous ne pouvons pas anticiper, ni par la raison, ni même par l'imagination. On ne voit pas pourquoi de telles mutations et transformations délibérées entraîneraient nécessairement une aliénation ou une disparition et non des extensions et des enrichissements de la liberté, de la conscience et de l'esprit. Le philosophe américain, bioéthicien et médecin Hugo Tristram Engelhardt aboutit, et d'autres aussi d'ailleurs comme John Harris ou encore comme Nick Bostrom, aboutissent à ce genre de conclusion en prenant au sérieux le contexte technoscientifique et multiculturel de la biomédecine contemporaine. Engelhardt ne voit aucun fondement ni aucune raison universalisable qui justifierait l'interdiction absolue et universelle de certaines recherches et de certaines applications dès lors que des individus ou des collectivités décideraient volontairement de les entreprendre avec prudence, dit-il, et sans risque autre que pour eux-mêmes. Si l'on prend en considération le long terme, comme les sciences elles-mêmes nous y invitent, la cohabitation des formes de vie pourrait prendre des couleurs très différentes de celle du multiculturalisme traditionnel que nous connaissons. Semblable avenir pluriel et polymorphe procéderait des interactions entre les symbolisations diverses et les techniques matérielles de plus en plus capables d'objectiver et d'opérer la nature, autant que les sujets mêmes de la symbolisation et de l'invention technoscientifique, à savoir les êtres humains. En réalité, l'opposition histoire et évolution n'aurait jamais été de mise depuis que l'espèce humaine est apparue. À certains égards, et ce sera ma conclusion, cette pensée, donc cette tendance ou cette approche-là, est proche de la problématique qu'on appelle la problématique du transhumanisme et du post-humanisme, et son imaginaire s'est depuis longtemps épanoui, notamment dans la science-fiction.
Merci Gilbert Autois. Merci. Donc nous avons quelques minutes pour que vous puissiez réagir au propos des uns et des autres. Peut-être Pascal Pic veut-il réagir aux propos des deux autres intervenants. Après, j'aurais peut-être une question à poser avant que nous passions aux questions de la salle.
Oui, à propos de cette idée, vous avez
cité le mot d'aléatoire ou autre. Il y a quelque chose, j'en pense au titre du livre de Jacques Monod, le hasard, la nécessité. Alors Jacques Monod ne pense pas cela, mais néanmoins, je n'aime pas beaucoup ce titre parce qu'il donne une très mauvaise idée de ce qu'est l'évolution. Entre l'idée d'un hasard qui peut émerger à tout moment et l'idée d'une nécessité comme s'il y avait une loi sous-jacente à l'évolution. Si on ne lit pas le bouquin, on peut sortir avec cela. Or, entre les conditions incertaines et aléatoires des origines de la vie et l'état de la nature actuelle, pas l'homme, l'homme et les espèces qui l'entourent, il y a quelque chose qui s'appelle la sélection naturelle, qui fait que nous sommes dans une série de contingences, et Stephen Jay Gould, qu'on appelle le Darwin du XXe siècle, l'a bien démontré. Je veux dire, des fois, devant un public comme ça, je leur dis, je vous rassure, on ne descend pas du singe. Alors tout de suite, ils sont contents, là, ils ont fait une bonne nouvelle. Nous sommes des singes. Ben oui. Mais d'où viennent nos réactions ? Pas de nos ignorances, tout simplement. Parce que dans le très sacré pays de Descartes que nous sommes en France, nous sommes le seul grand pays scientifique qui n'a pas d'école d'éthologie. Donc nous sommes confrontés à des archaïsmes absolument hallucinants. Non mais attendez, vous allez voir un petit peu dans quelle situation on est. Vous savez qu'en science, normalement, un modèle est scientifique si on peut le réfuter, c'est-à-dire si on peut mener des recherches qui peuvent tester sa solidité. Alors je donne un exemple. Il y a 25 ans, Yves Coppens avait fait une très belle synthèse des connaissances disponibles en génétique, biogéographie, paléontologie, etc. Et il avait dit, il avait fait l'hypothèse que nos origines étaient à l'est de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Issa History. Bien. 20 ans plus tard, on trouve un fossile aurorine qui atteste l'hypothèse de Coppens. C'est aurorine, le fossile du millénaire. Et puis 2 ans plus tard, 2002, donc, on trouve un autre fossile au Tchad qui, en fait, réfute l'hypothèse de Coppens. Alors, en fait, on ne sait plus aujourd'hui si c'est à l'est ou à l'ouest. On en est là. Alors, j'entends souvent des gens, vous voyez, l'incompréhension qu'on a par rapport à la culture scientifique, pourtant, c'est tout simple, ce que je vous dis, c'est Coppens s'est trompé. Non. Ce qu'on demande à un modèle scientifique, c'est de donner le meilleur état des connaissances disponibles à un moment donné, et ensuite, on doit développer des recherches qui vont ou le conforter et ou le réfuter. Bon, eh ben, on a avancé dans les connaissances, c'est ça le programme scientifique, c'est progresser dans les connaissances. Et ce n'est pas s'accrocher à un modèle. Et je vous dis cela parce qu'aujourd'hui, les idéologies auxquelles on a affaire et qui appréhendent ma discipline sont des idéologies qui récusent absolument les progrès des connaissances. Je veux dire, l'homme, il ne reste qu'une seule espèce aujourd'hui sur la Terre, Homo sapiens, mais il y a 40 000 ans, à peine, mais Beaubourg n'existait pas, ni vous ni moi, mais nous aurions eu dans cette salle des hommes et des femmes de Cro-Magnon. Et ça, ça déplaît beaucoup, parce qu'effectivement, ça va à l'encontre d'une tradition que nous sommes si uniques. En fait, bon, il reste nous. Donc on peut l'interpréter comme on veut. Mais voilà un exemple d'une certaine forme d'incertitude sur ce qu'aurait été notre futur si on avait pu revenir en arrière il y a 40 000 ans. Est-ce que c'est désenchanter le monde que de dire cela ? En tout cas, ça montre une chose, que notre place est très relative. Mais il est vrai que la conception de l'évolution de l'homme, et ça a été dit par mes deux collègues, ça a été perçu longtemps comme un combat de l'homme contre la nature. Ce que vous voyez dans ma discipline, c'est l'homme invente l'outil, le feu, il sort de la nature dans un combat prométhéen. Et aujourd'hui, et ça a été dit par Bruno Latour tout à l'heure, c'était très intéressant, et j'en prends une remarque d'Étienne au passage, il dit, aujourd'hui, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que pendant longtemps, nous avons conçu notre rapport à la nature en Occident comme un rapport antagoniste. Donc, en général, tout ce qui ne va pas, c'est la nature. Tout ce qui est bien, c'est la création de l'homme. Et de ce fait, aujourd'hui, lorsque l'on dit que nos propres actions peuvent se retourner contre nous, eh bien, ça va à l'encontre de cette tradition, de certaines formes de progressistes. Et quand mon ami Dominique Bellepomme a lâché l'appel de Paris en disant que nos cités et nos industries produisaient des dizaines de milliers de molécules dont on n'avait aucune idée de leur impact sur la santé humaine, etc. Qu'est-ce que vous entendez ? C'est de l'antiprogressisme. Or, c'est un peu hallucinant, parce que d'un côté, vous avez des scientifiques quand même qui disent très clairement ce qui se passe. On sait très bien que l'incidence des cancers, elle augmente dans les villes à l'heure actuelle, parce que, même s'il y a une directive européenne qui s'appelle REACH, on n'a pas tout cela. Et donc, le discours, c'est d'un seul coup, on a du mal à accepter que nos propres productions, qui ont participé de certaines visions du progrès rappelées à l'instant à propos de Francis Bacon, puissent se retourner contre nous. Alors, j'entends, t'es anti-progressiste, ce sont des productions qui viennent de nous, ou alors la nature est méchante. Alors ça, c'est, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, hein, je veux dire, elle fait son boulot, d'ailleurs elle n'a pas de boulot à faire, elle est comme elle est. Et récemment, c'était très intéressant parce que, vous voyez, nous sommes confrontés à la crise des subprimes, mais vous savez qu'en ce moment, il y a la crise des abeilles. Et quelqu'un a évalué combien pouvait nous coûter la disparition des abeilles. Et pour la première fois dans notre vision progressiste et techniciste du monde, on s'est mis à évaluer combien ne pouvait nous rapporter quelque chose de la nature. Ça n'a jamais été fait, ça. Jamais. Parce que dans la tradition entre l'homme et l'animal et la technique qui a été rappelée à l'instant, qui est celle de l'Occident, notamment l'Europe continentale, eh bien, on a toujours l'idée que ce qui vient de la nature, ou c'est mauvais, ou ça ne sert à rien, ou c'est à prendre comme on veut. Mais que jamais ça nous rend un véritable service. Et là, dans ce coup, on s'aperçoit que les abeilles, on est mal parti. Donc là, c'est des changements de paradigme absolument considérables auxquels nous sommes confrontés. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. On ne peut plus aujourd'hui accuser la nature de tous les maux qui sont en fait de notre responsabilité. Alors pour terminer, je vais terminer par une petite note de, vous savez, Gay-Luc, le chat philosophe là. J'ai trouvé un dessin récemment qui dit, le chat, là, il vous regarde comme ça avec son air sympathique et il dit, ah, dans le passé, il y avait plus de temps pour le futur. C'est une remarque un peu pataphysicienne qui fait rigoler. Mais là aussi, je reviens sur une remarque que vous avez faite. Cette idée d'un aboutissement de l'histoire de la vie à l'homme. C'est extraordinaire, ça. On n'arrive pas à comprendre qu'on va être dépassé, qu'au coup, nous allons disparaître, que peut-être nous donnerons d'autres espèces. Mais en tout cas, Homo sapiens ne sera plus Homo sapiens à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non. Et là, ça induit des dissonances cognitives, comme je disais tout à l'heure. Quand je dis à des personnes, des fois, mais c'est quand même assez rigolo, parce que ça touche au futur. J'ai dit, la vie est apparue il y a 4 milliards d'années. Waouh, ça fait un bail. La Terre, le Soleil va nous éclater en pleine figure il y a 4 milliards d'années. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Voyez comment nous sommes. Et des fois, quand je parle de Lucie, 3 millions d'années. Avant ou après Jésus-Christ, je leur dis, c'est comme vous voulez. Hein. Donc nous avons un rapport au temps, alors là, je vais sur le terrain d'Étienne, et à notre histoire et au futur, qui sont complètement dissonants, qui sont par rapport à notre existence, qui nous posent énormément de problèmes. Et effectivement, les sciences ont apporté ces connaissances. On sait que, vous savez, c'est terrible comme nouvelle, hein, de savoir que le système solaire va disparaître. Et ça, on a du mal à accepter, parce que comme l'a dit très bien, alors je ne sais plus votre nom, cher ami, Gilbert.
Gilbert Autois.
Gilbert Autois tout à l'heure, voilà, c'est que on est encore, merci Gilbert, on est nourri de cette idée que l'homme est l'aboutissement. Et tout le discours des origines de l'évolution de l'homme est dédié à cela. Hein. Et quand vous prenez, non pas le chemin du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, vous apercevez que la perspective est radicalement différente et que le futur est conditionnel, bien évidemment.
Étienne Klein, un mot ?
Oui, trois petites réactions. La première, c'est qu'on... Ça vise à montrer à quel point les bouleversements sont rapides. Quand j'étais étudiant, on m'expliquait qu'il fallait préparer la révolution, c'est-à-dire se fabriquer une idée de l'avenir qui était suffisamment attrayante et suffisamment crédible pour qu'on mette tout en œuvre afin qu'elle se réalise. Et cette figure de la révolution a été remplacée en quelques décennies, je ne suis pas si vieux que ça, par celle de la catastrophe, qui consiste à mettre en avant une idée du futur qui est suffisamment horrible et suffisamment crédible pour que nous mettions tout en œuvre afin de l'éviter. C'est quand même assez vertigineux qu'en quelques décennies, il y a eu ce basculement entre la révolution et la catastrophe. L'autre remarque, c'est sur le progrès humain. Il y a beaucoup de gens qui réclament de la science qu'elle se mette enfin au service du progrès humain. Et qu'est-ce que c'est que le progrès humain? Comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est une notion individuelle? Est-ce que c'est le progrès de l'homme? C'est-à-dire, finalement, le dopage physique, intellectuel, psychologique. Et là, il y a un progrès humain incontestable. qu'on puisse monter l'Alpe d'Huez aujourd'hui en développant pendant 27 minutes 500 watts de puissance, c'est un progrès humain. Aucun homme préhistorique n'aurait pu faire cela, même avec un beau vélo.
Tu les connais pas.
Ouais, enfin, 500 watts, c'est au-delà des limites physiologiques naturelles, disons. Donc ce progrès existe. Mais est-ce que le progrès humain, c'est pas plutôt une notion collective, c'est-à-dire un progrès de l'humanité? Et comment le définir? Et comment le définir en prenant acte du fait qu'à chaque fois qu'on s'est fait une idée très précise du progrès de l'humanité, en général, on a fait des guerres ou des génocides. Le nazisme est une certaine notion du progrès humain, une certaine visée. Bon, on voit le résultat. Donc, cette notion de progrès humain me paraît problématique et il faudrait en établir des critères avant de la balancer comme ça, comme étant une sorte d'impératif catégorique que les physiciens ou les scientifiques en général devraient suivre. Et pour finir, vous avez entendu parler des nanosciences, il y a beaucoup de débats sur les nanosciences, qui rejoignent les questions que Gilbert Autois a évoquées, aussi celles de Pascal Pic, parce que finalement la question des nanosciences, c'est que la ligne de séparation entre l'homme et son milieu naturel va devenir ambivalente. On aura des machines dans le corps qui doperont notre puissance musculaire, intellectuelle, qui augmenteront notre espérance de vie, qui empêcheront les maladies de nous tuer rapidement, etc. Et qui en même temps auront des effets palliatifs. On permettra à des sourds d'entendre, à des aveugles de voir, etc. Mais il se trouve que les techniques qui en général permettent la réparation sont les mêmes techniques que celles qui permettent l'augmentation des performances. Et donc, voilà, on peut dire on arrête de vouloir réparer les gens au motif qu'en apprenant à les réparer, on va les augmenter d'autres personnes. Et puis, il y en a qui disent, ben, augmentons, parce que c'est finalement une façon d'accélérer l'évolution darwinienne de l'espèce humaine. Mais la question qu'on va devoir régler un jour, c'est la suivante. Je vais faire très rapidement. Hannah Arendt, dans un livre qu'il faut lire aujourd'hui, relire aujourd'hui, qui s'appelle « La condition de l'homme moderne », en 58, pose des questions qui sont exactement les questions d'aujourd'hui. Elle définit les conditions de vie humaine, c'est-à-dire la façon dont nous travaillons, dont nous échangeons, dont nous communiquons dans une civilisation donnée, c'est-à-dire de quelles techniques et de quelles valeurs disposons-nous. Et puis, il y a une deuxième notion qui est la condition humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit notre rapport à la mort, à la naissance, à l'origine, aux autres, etc. Et puis, une troisième notion qui est la nature humaine, qu'elle décide de confondre avec l'identité biologique pour ne pas avoir à se poser de questions métaphysiques de type « qu'est-ce que l'homme ?». Avec les nanosciences, vont se poser les questions suivantes. Est-ce que les nanosciences et les nanotechnologies vont changer les conditions de vie humaine? La réponse est évidemment oui. Toutes les techniques puissantes ont changé les conditions de vie humaine. Deuxième question, est-ce qu'à force de changer les conditions de vie humaine, elles vont aussi changer la condition humaine? La condition humaine. C'est-à-dire le rapport à la mort, le rapport à la vieillesse, le rapport aux autres, etc. C'est ce que pensent les transhumanistes, qui perçoivent que grâce à la technique, grâce à l'hybridation entre l'artificiel et le naturel, on va pouvoir fabriquer des êtres post-humains qui seront en gros débarrassés des soucis du corps et qui auront les plus grandes difficultés à mourir. Bon. Et la question c'est, est-ce que cette post-humanité, si elle advient, s'universalisera ou est-ce qu'elle restera sectorielle? La réponse qu'on peut pressentir, c'est évidemment, elle restera sectorielle. C'est-à-dire, ces progrès techniques vont augmenter les inégalités. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'était pas dans le projet des Lumières, c'est que la technique, dès lors qu'elle ne s'universalise pas, augmente les inégalités. Et donc, ces post-humains, est-ce qu'ils reprendront à leur compte la phrase de Montaigne, c'est-à-dire « je suis post-humain » mais rien de ce qui est humain ne m'est étranger, ou est-ce qu'il dira « je suis post-humain et les humains sont des attardés » ?
Merci Étienne Klein. Quelques mots peut-être, oui, de Gilbert Autois.
Je vais rebondir sur post-humain, transhumain, là, en disant quand même qu'il y a une différence du point de vue de ceux qui... professent ce genre de spéculation, c'est que les transhumains se situe davantage dans le prolongement, enfin pas de rupture, pas de discontinuité, eugénisme par exemple, etc., tandis que la problématique dite de post-humanité, là il y a une rupture, et il y a évidemment des risques de conflits, de génocide, etc. Hein, c'est une distinction que l'on peut faire en tout cas. Évidemment, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça se joue déjà quand même microscopiquement aujourd'hui dans le développement de certaines pratiques diagnostiques génétiques, sélection plus ou moins eugénique, développement de certaines molécules, etc., qui se discutent au niveau des comités d'éthique notamment. Donc c'est quelque chose à la fois tout à fait spéculatif et peut-être tout à fait fantaisiste, mais en même temps aussi d'assez concret, déjà là, d'une certaine manière, et puis d'inévitable lorsqu'on tient compte des perspectives temporelles très lointaines. Effectivement, puisque l'homme est apparu en tant qu'espèce, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer, changer, voire disparaître? En ce qui concerne les nanosciences ou nanotechnologies, moi je parle de nanotechnosciences parce qu'il est assez difficile de distinguer les deux, là aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un domaine où les anciennes coupures ontologiques ont tendance à disparaître. Au niveau moléculaire ou atomique, il n'y a plus vraiment de distinction entre naturel et artificiel, entre physique, biologique, neurologique ou technique, tout simplement. Donc c'est effectivement, disons, un champ philosophiquement assez intéressant. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps d'émettre quelques autres réactions.
Je crois que vous aurez l'occasion, à travers les questions de la salle, on va la conserver le temps qu'on avait prévu à ces questions, donc c'est le moment de les poser. Je vois une main se lève tout au fond de la salle.